Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Baba Batra, page 50, Daf Nun. Bonne écoute et bon limoud.
Et l'un de ces terrains, donc le deuxième, c'est celui que le mari a désigné pour le paiement de la ktouva. Après le mariage, donc il l'a hypothéqué. Après que le contrat de la ktouva a été écrit, et l'un des terrains, donc le troisième, c'est celui qu'elle lui a donné en tant que dot. Et nous estimons donc qu'elle compte spécialement recevoir ce terrain en tant que paiement de la ktouva, puisque de toute façon, celui-ci ou sa contre-valeur doit lui être restitué en cas de décès du mari ou de divorce. Il s'agit donc de trois terrains que la femme compte spécialement saisir pour le paiement de sa ktouva. Et c'est de cela que la Mishnah parle lorsqu'elle dit que si le mari a vendu donc l'un de ces trois terrains et l'acheteur a donné un peu d'argent à la femme pour qu'elle renonce à les saisir pour le paiement de sa ktouva, cet accord de la femme n'est pas valable. Alors la Gemara continue pour expliquer cette réponse. L'imutemai, qu'est-ce que Rabba Baravuna est venu nous exclure lorsqu'il nous dit qu'il ne s'agit que de ces trois types de terrains? Il est mal l'imuté charnechassim. Si Rabba Baravuna a voulu exclure tous les autres biens appartenant au mari, et cela voudrait dire donc que si le mari a vendu l'un des terrains lui appartenant et qui ne fait pas partie de ces trois terrains, et puis l'acheteur a donné un peu d'argent à la femme pour qu'elle renonce à le saisir pour le paiement de sa ktouva, son accord sera valable. C'est impossible. Il est évident que dans ce cas, la femme pourra dire qu'elle a accepté de le faire pour éviter que son mari ne se mette en colère. Parce que si elle refusait de le faire, kol sheken dehav yaleh eva, il est d'autant plus évident que le mari se fâchera avec elle, d'amarla, parce qu'il lui dira, enayich natat begerushin ubemita, est-ce que tu attends le divorce ou mon décès, donc le paiement de ta ktouva, pour que tu m'empêches de vendre l'un de mes terrains? Il est donc évident que la femme acceptera de renoncer à ses droits sur ce terrain pour éviter des tensions inutiles. Forcément donc, son accord ne sera pas valable. Et en fait, ce que Rabba Baravuna a voulu dire, c'est que non seulement lorsqu'il s'agit d'un des terrains appartenant au mari, que la femme pourra dire qu'elle a accepté de renoncer à ses droits sur ces terrains pour éviter que son mari ne se mette en colère, mais même lorsqu'il s'agit d'un des terrains qui a été désigné pour le paiement de sa ktouva et que nous avons énuméré plus haut, mais finalement, elle aurait pu tranquillement empêcher son mari de le vendre, quand même, nous dirons qu'elle a accepté de renoncer à ses droits sur ces terrains pour éviter que son mari ne se mette en colère. Et là, plutôt nous dirons que ce que Rabba Baravuna a voulu exclure, les Mehouten Irtemilouk, il a voulu exclure les terrains appartenant à la femme dont le mari est l'usufruitier. Dans ce cas, puisqu'il s'agit de terrains appartenant à la femme, s'il a accepté de les vendre à son mari, nous ne dirons pas qu'elle a accepté de le faire pour éviter que son mari ne se mette en colère, parce qu'il n'a aucune raison de se mettre en colère s'il n'accepte pas de lui vendre l'un de ses terrains. Donc finalement, c'est cela que nous pouvons déduire de notre Mishnah, que si le mari présente un acte de vente comme quoi sa femme lui a vendu l'un de ses terrains, cette vente sera valable. Nous avons fini ici le shiur de Baba Batra Daf Memtet. Nous commençons le shiur de Baba Batra Daf Nun à la cinquième ligne du haut de la page. La Gemara avait conclu jusqu'à présent que du fait que la Mishnah dit que le mari ne peut pas prétendre au droit de propriété sur les biens de sa femme, nous pouvons en déduire que si le mari prouve que sa femme lui a vendu son terrain, donc en présentant l'acte de vente, il aura acquis ce terrain. Alors la question se pose, pourquoi est-ce que la femme ne peut pas annuler cette vente en disant qu'elle a été d'accord de lui vendre ce terrain pour ne pas qu'il se mette en colère contre elle? Finalement, cette vente était donc sous contrainte, mais la contrainte n'était pas suffisante pour que l'on puisse dire que la femme a accepté de vendre son terrain pour échapper à la contrainte. Donc finalement, cette vente devrait être annulée. D'ailleurs, nous avons vu dans une Mishnah, dans Gitin Daf Nun He Amud Bet, que si une personne achetait un terrain d'un homme, et puis il a donné de l'argent à la femme pour qu'elle renonce à ses droits de saisir ce terrain pour le paiement de sa ktouva, cet accord n'est pas valable, parce que justement, nous disons que la femme peut dire qu'elle a été d'accord de renoncer à ses droits de saisir ce terrain pour ne pas que son mari se mette en colère contre elle, parce qu'elle l'empêche de vendre ses terrains. Nous voyons donc que ce raisonnement est appliqué, il devrait être aussi appliqué ici. Or, l'Agmara a répondu là-dessus que voici Rabba bar Ravuna a interprété la Mishnah en disant que cette Mishnah dans Masechet Gittin ne parle que l'une des trois possibilités où ce terrain a été désigné pour le paiement de sa ktouba. Alors, l'Agmara a expliqué que ce que Rabba bar Ravuna a voulu dire, que non seulement lorsqu'il s'agit d'un terrain appartenant réellement au mari et l'acheteur aurait donné un peu d'argent à la femme pour qu'elle renonce à ses droits de saisir ce terrain pour le paiement de sa ktouba, là il est évident qu'elle pourra dire qu'elle a été d'accord de le faire pour ne pas que son mari se mette en colère contre elle en lui disant qu'elle attend de se faire payer la ktouba et elle attend donc le divorce ou son décès. Et c'est pour cela qu'elle l'empêche de vendre ses terrains. Mais même dans le cas d'un terrain qui a été désigné spécialement pour le paiement de la ktouba, quand même elle pourra dire qu'elle a été d'accord de renoncer à ses droits de saisir ce terrain pour ne pas que son mari se mette en colère contre elle. En fait, Rabba bar Ravuna a voulu simplement exclure le cas de terrain appartenant à la femme dont le mari est l'usufruitier. Dans ce cas, puisqu'il s'agit de terrain appartenant à la femme, elle ne pourra pas dire qu'elle a été d'accord de vendre ce terrain pour faire plaisir à son mari. Par conséquent, si le mari prouve par l'acte de vente que la femme lui a vendu ce terrain, la vente sera valable. Alors l'Agmara demande, cela aussi n'est pas possible, parce que Ha'amar Amimar, voici que Amimar a dit Ish ve'isha shemachru benirse milug. Si l'homme et la femme, donc le mari et la femme, ont tous les deux vendu ensemble l'un des terrains appartenant à la femme dont le mari est l'usufruitier, lo'asuv lo'klum, cette vente n'est pas valable. Apparemment donc, même lorsqu'il s'agit de terrain appartenant à la femme, elle pourra dire qu'elle a été d'accord de le vendre pour ne pas mettre son mari en colère. Cette vente donc n'est pas valable. Puisque c'est ainsi, lorsque la femme vend son terrain à son mari, cette vente aussi ne devrait pas être valable. L'Agmara répond, Ki itmar de Amimar, de quel cas parle Amimar, Hecha de Zavin Ihu, c'est dans le cas où le mari a vendu ses droits sur le terrain appartenant à sa femme, c'est-à-dire donc le droit d'usufruit et le droit d'hériter sa femme après sa mort, mais la femme, elle, n'a pas participé à cette vente. Oumit, puis le mari est décédé. Dans ce cas, ce qu'Amémar vient nous enseigner, Atia Ihi, la femme peut venir, Oumafka, et elle pourra retirer ce terrain. Et cela, parce que dans le cas où c'est le mari qui est décédé en premier, ce terrain revient à la femme. Inami ou bien, Zavna Ihi, c'est la femme qui a vendu ses droits sur ce terrain. C'est-à-dire, pour le cas où c'est son mari qui décéderait en premier, ou Meta, et c'est la femme qui est décédée en premier. Ata Ihu, le mari peut venir, ou Mapik, Betakanta de Rabanan, et retirer ce terrain de l'acheteur par institution de Chachamim. Ou que de Rabbi Yossi Bar Hanina, comme l'a enseigné Rabbi Yossi Bar Hanina, Dama Rabbi Yossi Bar Hanina, Beusha Hitkinu, lorsque le tribunal suprême a siégé dans la ville de Usha, ils ont institué que Haisha Shemachra Benirse Milug, si la femme a vendu des terrains lui appartenant, dont le mari est l'usufruitier, ou Meta, puis elle est décédée en premier, Habal Moti Miyad al-Kuchot, le mari pourra retirer ce terrain des acheteurs. Et cela parce que selon cette institution, le mari n'est pas considéré simplement comme un héritier, mais aussi partiellement comme un acheteur. Nous considérons donc que c'est le mari qui l'a acheté en premier, avec la condition de le rendre à la femme s'il mourait en premier. Et c'est pour cela donc que si c'est la femme qui est décédée en premier, que le mari pourra retirer ce terrain des mains des acheteurs. Donc finalement, c'est cela que Amémar a voulu dire. Si le mari a vendu tout seul le terrain appartenant à la femme, ou bien la femme à elle tout seul a vendu ses droits sur le terrain lui appartenant, la vente ne vaut rien. Par conséquent, dans le premier cas, tant que le mari est vivant, l'acheteur a acquis le droit d'usufruit dans ses terrains, mais une fois que le mari meurt, il devra restituer le terrain à la femme. Dans le deuxième cas où c'est la femme qui a vendu le terrain, donc pour le cas où son mari mourrait en premier, donc si c'est la femme qui est décédée en premier, le mari pourra retirer ce terrain des mains de l'acheteur. Aval hecha de zavin utarvay ule alma, mais lorsque tous les deux ont vendu ensemble l'un des terrains appartenant à la femme à une autre personne, inami ou bien zavna ihi ledide, si la femme a vendu son terrain à son mari, zvina zvine, cette vente est valable. Parce que justement, puisque c'est un terrain appartenant à la femme, elle ne pourra pas dire qu'elle a été d'accord de le vendre pour ne pas que son mari se mette en colère contre elle. Veibaitema, et si tu veux, je te donnerai une autre interprétation de l'enseignement de Amimar. C'est-à-dire, toujours pourrais-je te dire qu'on comprendra Amimar tel qu'il l'a dit. C'est-à-dire que lorsque l'homme et la femme s'accordent pour vendre un terrain appartenant à la femme, cette vente n'est pas valable. Mais ce n'est pas parce que la femme peut dire qu'elle a été d'accord de vendre ce terrain pour ne pas que son mari se mette en colère contre elle, mais pour une autre raison. Amimar, de Amar, que Rabbi Lazar, c'est parce qu'Amimar pense comme Rabbi Lazar, de Tania, parce qu'il a été enseigné dans une braïta. Hamocher et Avdo, celui qui vend son esclave, ou Pasakimo, et le vendeur a conclu avec l'acheteur, chez Shamshen ou Shloshimiyom, que l'esclave continue à servir le vendeur pendant 30 jours. Alors la question se pose, parce que même si lorsqu'une personne blesse son prochain, ou même un esclave, et la victime meurt de ses blessures, l'agresseur sera considéré coupable de meurtre, même si la victime meurt longtemps après, mais lorsqu'il s'agit de son propre esclave, le Passouk dit dans Shemot Kafalef, si une personne blesse son esclave ou met tachat yado, et il est mort sous sa main, le sang de cet esclave sera vengé, en d'autres termes, le propriétaire sera condamné à mort. Im yom oyomaim yamod, si l'esclave est resté vivant un ou deux jours, c'est-à-dire comme la Gemara l'explique, 24 heures, lo yukam, son sang ne sera pas vengé, kikaspohu, parce que cet esclave est l'argent du propriétaire. Alors le pasouk emploie deux formules pour préciser qu'il s'agit d'un propriétaire qui blesse son esclave. Premièrement, umet tachat yado, il est mort sous sa main, donc il s'agit d'un esclave qui se trouvait sous sa main, donc en sa propriété. Et la deuxième formule, c'est kikaspohu, parce que c'est son argent. Alors la question se pose, dans ce cas où le vendeur continue à utiliser l'esclave, qui est-ce qui est considéré le propriétaire de cet esclave? Est-ce que c'est le vendeur ou l'acheteur? Alors, Rabbi Meir Omer, Harishon Yeshno Bedin Yom Yomaim, le premier, donc le vendeur, est concerné par la loi d'un ou deux jours. C'est-à-dire, si c'est le vendeur qui blesse l'esclave alors qu'il travaillait encore chez lui, il ne sera pas condamné à mort si l'esclave reste vivant pendant 24 heures. Mipnechehu Tartav, parce que finalement cet esclave était en possession du vendeur. Behasheni, mais le deuxième, c'est-à-dire l'acheteur, Eno Bedin Yom Yomaim, n'est pas concerné par la loi d'un ou deux jours. C'est-à-dire, si c'est l'acheteur qui blesse l'esclave pendant la période où il était encore chez le vendeur, l'acheteur sera condamné à mort, même si l'esclave meurt longtemps après. Mipnechehu Tartav, parce que lorsqu'il l'a blessé, il n'était pas en sa possession, parce qu'il travaillait encore chez le vendeur. En cas savoir, l'agma explique que Rabbi Meir pense Kinyan Perot ke Kinyan Haguf Dami. L'usufruitier d'un terrain, ou dans ce cas de l'esclave, est considéré comme le propriétaire de celui-ci. Donc puisque c'est le vendeur qui utilisait encore l'esclave à cause de la condition qui a été posée dans cette vente, finalement c'est lui qui est l'usufruitier de cet esclave, il est considéré comme le propriétaire de celui-ci. Nous considérerons donc que cet esclave était tartav, c'est-à-dire en sa possession, et c'est pour cela qu'il ne sera pas condamné à mort si l'esclave survit 24 heures. Par contre, l'acheteur, pendant cette période, n'est pas encore considéré comme propriétaire de cet esclave, et il sera condamné à mort, même si cet esclave survit 24 heures. Rabbi Yehuda Omer, Hasheni Yeshno Bedin Yom Yomaim, le second, c'est-à-dire l'acheteur, est concerné par la loi d'un ou deux jours, c'est-à-dire que si c'est l'acheteur qui a blessé l'esclave pendant cette période, il ne sera pas condamné à mort s'il a survécu pendant 24 heures. Mipnechehu Kaspo, parce que cet esclave est l'argent de cet acheteur, puisqu'il l'a acquis. Alors même s'il n'est pas entièrement propriétaire de cet esclave, parce que le vendeur en est encore l'usufruitier, le fait que l'acheteur est déjà le nu propriétaire de cet esclave est suffisant pour le considérer propriétaire, pour ne pas être condamné à mort si l'esclave survit 24 heures. Par contre, Harishon Eno Bedin Yom Yomaim, le premier, c'est-à-dire le vendeur, n'est pas concerné par la loi d'un ou deux jours, c'est-à-dire que si c'est le vendeur qui blesse l'esclave pendant cette période, il sera condamné à mort, même si l'esclave survit 24 heures chez Eno Kaspo, puisque finalement, cet esclave n'est pas l'argent du vendeur, parce qu'il l'avait déjà vendu. En l'Agmara explique, Kassavar Rabbi Yehuda pense, Kinyan Perot Lav Ke Kinyan Aguf Dami. L'usufruitier d'un terrain, ou comme dans notre cas, d'un esclave, n'est pas considéré comme étant propriétaire de celui-ci. Par conséquent, le vendeur sera considéré comme un étranger, qui sera condamné à mort, même si l'esclave survit plus de 24 heures. Autrement dit, parce que Rabbi Yehuda pensait que l'usufruitier n'est pas considéré comme propriétaire, il s'est appuyé sur le terme de caspo pour décider que c'est l'acheteur qui est considéré comme propriétaire et qui est concerné donc par cette loi de 1 ou 2 jours qui disculpe le propriétaire si l'esclave a survécu 24 heures, alors que Rabbi Meir, qui pensait que l'usufruitier est considéré comme propriétaire, s'est appuyé sur le terme de tartav pour décider que c'est le vendeur qui est considéré comme propriétaire et qui est concerné par cette loi d'un ou deux jours qui disculpe le propriétaire lorsque l'esclave a survécu 24 heures.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Rabbi Yossi Omer, nous tournons la page à Daf Nun Amud Bet. Shnehem Yeshnan Bedin Yom Yomaim. Les deux, c'est-à-dire soit l'acheteur, soit le vendeur, sont concernés par cette loi d'un ou deux jours qui disculpe le propriétaire lorsque l'esclave a survécu 24 heures. Et cela parce que Zem Ipne Shehu Tartav, celui-ci, donc le vendeur, est considéré propriétaire parce que l'esclave est sous lui, c'est-à-dire qu'il est en sa possession. Zem Ipne Shehu Kaspo, et celui-ci, c'est-à-dire l'acheteur, est aussi considéré propriétaire parce que c'est son argent, parce que finalement il l'a acheté. Alors l'Agmar explique, où Mesaf Kale, Rabbi aussi est en doute, Ikinyan Perot Kekinyan Agouf Dami, est-ce que l'usufruitier est considéré comme propriétaire, Ilav Kekinyan Agouf Dami, ou bien est-ce que l'usufruitier n'est pas considéré propriétaire? Par conséquent, Vesafek Nefashot Leakel, lorsque nous avons un doute si une personne doit être condamnée à mort ou non, nous irons pour la Kula, c'est-à-dire nous lui accorderons le bénéfice du doute. Et cela parce que le pasouk dans Bamidbar Lamedhe dit Veshaftu Ha'eda, etc. L'assemblée, donc le tribunal, jugera. Puis le pasouk continue et dit Vehitilu Ha'eda, et l'assemblée, donc le tribunal, sauvera. De là, nous apprenons que lorsque le tribunal a un doute, elle ne condamnera pas une personne à mort. Et cela même dans notre cas où, finalement, le propriétaire devrait être considéré meurtrier. Et c'est à lui à prouver qu'il en était le propriétaire pour être disculpé à cause de cette loi d'un ou deux jours. Quand même, le tribunal ne le condamnera pas à mort. Rabbi Lazar Omer, Shnehem Enan Bedin Yom Yomaim. Les deux, c'est-à-dire soit l'acheteur, soit le vendeur, ne sont pas concernés par cette loi d'un ou deux jours. Ils ne seront donc pas disculpés si l'esclave survit 24 heures. Et cela parce que Zé le fiche et l'otartav, l'acheteur ne sera pas disculpé par cette loi parce que l'esclave n'était pas sous lui, c'est-à-dire n'était pas en sa possession, vezé le fiché no caspo, et celui-ci, c'est-à-dire le vendeur, ne pourra pas être disculpé par cette loi, parce que finalement, cet esclave n'est pas son argent, puisqu'il l'a vendu. Ve'amar Rava, et Rava a dit là-dessus, Maïta Amad Rabbi Lazar, quelle est la raison de Rabbi Lazar? Il répond à Makra, parce que le pasouk dit dans Shemot Kafalef, justement concernant la personne qui blesse son esclave, si l'esclave a survécu 24 heures, lo yukam, il ne sera pas vengé. C'est-à-dire, le propriétaire ne sera pas condamné à mort, qui casse pas où, parce que cet esclave est son argent. Le pasouk n'avait pas besoin de préciser qu'il s'agissait de son argent, parce que le pasouk a déjà dit qu'il s'agissait d'une personne qui a blessé son esclave. Alors de là, nous apprenons, kaspo hamiyuchadlo, il faudra que ce soit son argent qui lui appartient à lui tout seul. Alors, comme le précise le Tosfot, le pasouk ne vient pas exclure le cas d'un esclave appartenant à deux associés, parce que dans ce cas, la moitié de l'esclave appartient entièrement à chacun de ses associés, mais plutôt le pasouk vient exclure le cas où une personne est nue propriétaire de l'esclave et l'autre est l'usufruitier de l'esclave. Dans ce cas, il n'y a aucune partie qui appartient entièrement à l'un des deux propriétaires, et c'est pour cela qu'ils seront exclus de cette loi disculpant le propriétaire si l'esclave a survécu 24 heures. En tout cas, nous voyons que l'opinion de Rabbi Lazar est que si une personne est usufruitier d'un terrain et l'autre personne est nu propriétaire, aucun des deux n'est considéré propriétaire. Alors dans le cas de terrain appartenant à la femme dont le mari est l'usufruitier, là aussi aucun des deux ne sera considéré propriétaire pour pouvoir vendre ce terrain. Alors même s'ils se joignent ensemble pour vendre ce terrain, la vente ne sera pas valable. Mais notre Mishnah suit l'opinion des Chachamim, selon lesquels même une personne étant partiellement propriétaire, parce qu'elle est uniquement nue propriétaire, pourra quand même vendre sa part de ce terrain. Et c'est pour cela donc que si la femme vend son terrain à son mari, cette vente sera valable. Alors, la Gemara reprend à nouveau le passage de la Mishnah qui dit « Velo le ish chazaka benirse ishto » et un homme ne pourra pas prétendre au droit de propriété sur les terrains de sa femme qu'il a occupé. Alors, la Gemara demande « Veha amar rav » pourtant Rav a dit « Eshet ish tzricha limchot » une femme mariée doit protester lorsque quelqu'un d'autre occupe l'un de ses terrains. Alors, la Gemara demande « Veman » contre qui doit la femme protester lorsque celui-ci occupe son terrain ?« Il est ma be'acher » s'il s'agit d'un étranger. Ce n'est pas possible. « Ve'amar rav » pourtant Rav a dit « En marzikim benirse eshetish » personne ne peut prétendre au droit de propriété s'il occupe un terrain d'une femme mariée. Et cela parce qu'elle peut dire que la raison pour laquelle elle n'a pas protesté, c'est qu'elle comptait sur son mari pour le faire. Et la lave, n'est-ce pas donc que ce que Rav a voulu dire, « Bebaal » qu'une femme mariée doit protester si son mari occupe l'un de ses terrains. Nous voyons donc que si cette femme n'a pas protesté, le mari pourra prétendre au droit de propriété, contrairement à ce que nous avons vu dans la Mishnah. L'Agma répond, Amar Rava Leolam Bebal. Toujours pourrais-je te dire que ce que Rav a voulu dire, c'est qu'effectivement une femme mariée doit protester si son mari occupe son terrain. Ou que Gon Shechafarba Borot Shichin ou Meharot, mais c'est dans le cas où son mari a creusé dans ses terrains des puits, des fosses et des grottes. En d'autres termes, dans le cas où le mari a abîmé les terrains, alors qu'ils étaient destinés uniquement à produire des fruits. Donc dans ce cas, la femme aurait dû protester. Si elle ne l'a pas fait, le mari pourra prétendre au droit de propriété. Mais s'il consomme uniquement les fruits produits par cette terre, le mari ne pourra pas prétendre au droit de propriété. Alors la Gemara demande, « Veha amar rav nachman amar rabba baravua en chazaka le nezakim » il n'existe pas de droit de propriété pour quelqu'un qui cause des dégâts. Alors, l'Agmara comprend que ce que Rav Nachman a voulu dire, qu'une personne ne pourra pas prétendre au droit de propriété s'il occupe un terrain en y causant des dégâts. Et cela parce que nous pouvons dire que le propriétaire n'a pas protesté, parce que de toute façon, il ne l'occupait pas normalement. Si c'est ainsi, le mari ne devrait pas pouvoir prétendre au droit de propriété s'il a creusé des trous dans les terrains appartenant à sa femme. L'Agmara répond, ce n'est pas cela que Rav Nachman a voulu dire. Emma, plutôt ce qu'il a voulu dire, En din chazaka le nezakin. La loi concernant le droit de propriété ne s'applique pas pour les dégâts. C'est-à-dire, même si en général pour établir un droit de propriété, une personne devra occuper un terrain pendant 3 ans, mais lorsqu'il cause des dégâts à un terrain, le droit de propriété sera établi immédiatement. Cela parce que nous estimons que le propriétaire réagit immédiatement lorsqu'il voit qu'une personne abîme son terrain. Donc, nous apprenons de là que lorsque le mari a abîmé les terrains de sa femme en y creusant des trous, il pourra prétendre au droit de propriété si la femme n'a pas protesté immédiatement. Iba Itema, si tu veux, je te donnerai une autre interprétation de cet enseignement de Rav Nachman. Lav Itmar Allah, n'a-t-il pas été dit pour expliquer cet enseignement de Rav Nachman, Rav Mari Amar Bekutra, que Rav Nachman parle de dégâts causés par la fumée, Rav David Amar Bebetakise. Rav David dit que Rav Nachman parle de dégâts causés par les mauvaises odeurs provenant d'un toilette. Autrement dit, Rav Nachman ne parle pas d'un droit de propriété établi par une personne qui occupe un terrain, mais plutôt qu'une personne ne pourra pas prétendre au droit de propriété lorsqu'il a pris l'habitude de faire une action, même chez lui, qui peut gêner ses voisins, lorsqu'il s'agit de gros dégâts, comme ceux causés par la fumée d'un grand fourneau, ou bien comme ceux causés par les mauvaises odeurs provenant d'un toilette. Ces dégâts étant insupportables, même si les voisins ont accepté de les subir pendant un certain moment, cela ne veut pas dire qu'ils l'ont accepté pour toujours. Selon cette interprétation, Rav Nachman n'a jamais dit qu'une personne ne peut pas prétendre au droit de propriété s'il cause des dégâts à un terrain. Par conséquent, le mari pourra prétendre au droit de propriété s'il abîme les terrains de sa femme en y creusant des trous si elle ne proteste pas pendant les 3 ans. Rav Yosef Amar, le Olam Be'acher, toujours pourrais-je te dire que lorsque Rav a dit qu'une femme mariée doit protester lorsque quelqu'un occupe son terrain, c'est quand il s'agit d'une personne étrangère. Ou que Gon She'achla Miktsat Chazaka Bechaya Baal, par exemple dans un cas où cette personne a mangé les fruits de ce terrain, donc l'a occupé pendant une partie de la période nécessaire pour établir un droit de propriété, donc pendant moins de 3 ans, du vivant du mari, Veshalosh, la Harmita Tabal, et puis il a continué à occuper ce terrain pendant 3 ans après la mort du mari. Alors même s'il est vrai que du vivant du mari, il ne peut pas prétendre au droit de propriété s'il occupe le terrain, de la même manière que le mari lui-même ne pouvait pas prétendre au droit de propriété, puisque finalement le mari est l'usufruitier de ce terrain, il est possible donc qu'il a vendu ses droits à une autre personne. Cependant, après le décès du mari, il aurait dû rendre le terrain à la femme. S'il ne l'a pas fait, il pourra prétendre au droit de propriété. Migod ibaye amar la, parce que du fait qu'il aurait pu dire à la femme, Anaz avinta minar, je t'ai acheté ce terrain après le décès de ton mari, et on l'aurait cru parce qu'en fait il aurait dû le rendre, ki amar la nami, alors même lorsqu'il présente l'argument, Adza avinta le, tu as vendu ce terrain à ton mari, vezavna niali, et il me l'a vendu par la suite, mehman, on le croira. Et c'est pour cela donc que la femme doit protester si une personne étrangère occupe son terrain après le décès de son mari. Goufa, la Gemara reprend l'enseignement qui a été mentionné plus haut. Amarav, en marzikin benirse shetish. On ne peut pas prétendre au droit de propriété sur les terrains appartenant à une femme mariée. Et cela, comme nous l'avons expliqué, parce que la femme peut dire qu'elle comptait sur son mari pour protester.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.